Êtes-vous prêt à voyager des frontières de vos peurs aux limites de vos rêves, à rencontrer des mythes et des légendes, des diables et des anges, à vous laisser conduire sur les chemins de l'étrange? Arcanum Fabulas. Saison 7. Ce village nous semblait la proie idéale. Quelques paysans égarés au milieu d'une forêt. Après avoir passé le printemps et l'été à piller, après avoir défait les armées du roi à l'automne, nous aspirions à nous reposer au cours de l'hiver. Mais ce village n'était pas un village ordinaire, et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable.
Épisode 3.
Quand nous arrivâmes à proximité du village indiqué par les commerçants, là où devaient se trouver les troupes qui se disaient royales, Gaénor décida de jouer la prudence. Nos hommes restèrent éloignés, à l'abri de la forêt toute proche, et seuls Thomas et moi nous rendîmes sur place. Il n'était pas loin de la mi-journée, et pourtant, la seule rue du bourg était animée. Sous les regards méfiants des habitants du coin, des soldats avaient pris possession de la petite église qui se trouvait juste au milieu du village. Nous fûmes vite pris à partie par ces derniers. Deux gardes à l'allure impressionnante s'approchèrent de nous et nous interpellèrent.
Voilà, vous deux, vous n'êtes pas d'ici?
Non, effectivement,
répondit Gaénor après m'avoir adressé un regard pour m'inviter à le suivre dans son explication.
Nous nous rendons à Lyon, au marché.
Le garde eut un regard suspicieux. Il nous dévisagea de pied en cap.
Au marché?
Demanda-t-il.
Vous ne ressemblez pas à des marchands.
Le gallois fit un sourire entendu et un petit clin d'œil.
C'est vrai, nous espérons simplement gagner un peu d'argent en vendant nos services aux commerçants.
Notre interlocuteur se tourna vers son camarade pour avoir son avis. Le second soldat opina du chef.
Très bien. Vous allez rester longtemps au village?
Oh, messire, juste le temps de se reposer un peu, et puis nous reprendrons notre route.
Le soldat ne répondit rien et s'éloigna. Gaénor l'interpella.
Excusez-moi, messire, y a-t-il une taverne par ici?
Juste à la sortie du village.
Effectivement, à la sortie du bourg, nous trouvâmes une bâtisse un peu plus grande que les autres et dont sortaient, par la porte ouverte, de nombreux bruits de voix. C'est sûrement là, faisais-je remarquer à Gaénor qui approuva. Nous entrâmes dans une salle assez grande mais sombre, et la première chose que je remarquai, c'est l'odeur pestilentielle. À la vue de mon expression contrariée, le gallois ne put s'empêcher de sourire.
Courage,
me dit-il.
Nous sommes en mission.
Je tentais donc d'oublier mon désagrément et je me concentrais sur ce qui nous entourait. Il y avait là 5 ou 6 tables presque toutes occupées et majoritairement par des soldats reconnaissables à leurs armes. Nous avisâmes des places libres et nous nous y installâmes. Un gros type barbu au regard de travers s'approcha de nous et entra directement dans le vif du sujet.
Bonjour messieurs, vous avez de quoi payer?
Oui,
répondit Gaénor en sortant une pièce.
Et toi, tu as du vin?
Le meilleur a 10 lieues à la ronde, messire.
Il attrapa la pièce et s'en tourna chercher un broc et 2 gobelets en bois qu'il posa devant nous avant de les remplir d'une boisson rouge et épaisse.
Vous êtes de passage dans le coin?
Oui,
confirma simplement Thomas.
Vous vous êtes perdu?
Il laissa éclater un rire grand que nous accompagnâmes par politesse avant que je ne précise. Nous nous rendons à Lyon pour le marché.
Vous n'avez pas l'allure de marchand?
Nous ne le sommes pas,
confirma Gaénor.
Simplement à la recherche de bonnes affaires.
Il fit une courte pause avant de reprendre.
En parlant de bonnes affaires, les vôtres ont l'air juteuses.
D'un signe de la tête, le gallois désigna les autres tables. Le tavernier se retourna pour comprendre ce qu'il voulait dire.
C'est vrai, la présence de la troupe dans notre village en inquiète certains, mais pour moi...
Il fit un clin d'œil entendu. Le bonhomme semblait affable et disposé à parler. C'était le moment de lui poser des questions. Et ils sont là depuis longtemps? Demandai-je d'un ton innocent.
Toujours.
Il se pencha en avant pour nous parler plus discrètement.
Ils se disent soldats du roi, à la recherche des grandes compagnies. Mais ils ne s'approchent pas d'Alas. C'est là-bas qu'ils sont, les temps revenus, avec leur chef Seguin.
Et ils sont nombreux, ces soldats?
Je sais pas exactement. Peut-être une petite centaine, pas tout à fait.
Gaénor sourit et but une gorgée de vin.
Ils vont avoir du mal à attaquer Alas avec si peu d'hommes,
fit-il remarquer.
Tout à fait.
Confirma le tavernier toujours à voix basse.
Soit ils ne sont pas qui ils prétendent, soit ils attendent des renforts.
Quelqu'un se rogla la gorge derrière nous. Un des soldats avait quitté sa chaise et s'était approché de notre petit groupe. Ils nous toisaient d'un air mauvais. Vous me paraissez bien curieux, nous dit-il. Le tavernier se redressa, très mal à l'aise, s'excusa et prit congé. Le soldat le regarda s'éloigner sans rien dire, puis revint sur nous.
« Permettez que je m'assoie un instant ?»
Il n'attendit pas notre réponse et prit place entre nous deux.
« Excusez-moi, mais je n'ai pas retenu vos noms. »«
C'est normal, l'ami, » répondis-je en essayant de garder un peu de prestance. « Nous ne vous avons rien dit. »«
Et puis ?»
ajouta Gaïnor.
« Nous ne sommes pas d'ici, vous non plus. Nos noms ne vous diront rien. »
Le soldat nous dévisagea à tour de rôle, s'appuya sur la table et poursuivit.
« Bien, bien. Mais peut-on au moins savoir ce que vous venez faire ici ?»
Sans hésiter, nous lui servîmes notre mensonge habituel. Comme les autres, il nous fit remarquer que nous n'avions pas l'allure de marchands. Notre réponse était toute prête. C'est à ce moment que j'ai décidé de profiter de cette conversation imprévue pour tenter de récolter plus d'informations. « Et vous ? Il paraît que vous êtes soldat du roi ?» Il me toisa à nouveau avec le même sourire entendu.
« C'est bien ce que je disais. Vous êtes curieux. Très curieux. Trop curieux. »
Il fit un geste. Je ne l'avais pas remarqué, mais depuis qu'il nous avait rejoints, ses camarades suivaient nos échanges de loin. Et dès qu'il leva la main, ils le rejoignirent et nous entourèrent. Gaynor me fit un clin d'œil. Notre jeu était entendu. Il enchaîna immédiatement.
« Je te l'ai déjà dit 100 fois, Arthur. Tu n'es pas assez discret. Tu nous amènes des ennuis à n'en pas finir. »«
Moi ? Moi ?» répondis-je faussement outré. « Moi, je ne suis pas assez discret. C'est plutôt fort comme réflexion de la part d'un type qui a la langue aussi pendue que toi. »
« Je n'ai pas la langue pendue, mon ami. Je suis juste affable. »«
À qui veux-tu faire croire qu'un défaut pour moi serait une qualité pour toi ?»«
Tu t'égares de toute façon, car la question n'est pas de savoir quels sont tes défauts et quelles sont mes qualités. »«
Non ?»«
Non. »«
Alors c'est quoi la question ?»«
Comment prend-on le congé de nos amis soldats ?»«
Ça, c'est simple. »«
Ah oui ?»«
On fait comme ça. » Avant même que nos adversaires n'aient fini de savourer notre fausse dispute, j'étais debout et j'avais tiré de ma manche un petit couteau qui était toujours caché. Je faisais un demi-tour sur moi-même et plantais mon arme dans le cou du soldat derrière moi. Il ne fallut pas longtemps à celui qui était assis pour comprendre ce qui était en train de se passer. Il se leva et cria
« Tuez-les !»
Mais Gaynor s'était lui aussi levé, avait attrapé sa chaise et d'un geste circulaire l'avait utilisé comme une arme pour mettre au sol deux autres soldats. De mon côté, j'avais fait une deuxième victime en lui adressant un magistral coup de poing dans le nez. Il ne restait donc plus que le soldat qui avait engagé la conversation. Mais lui avait eu le temps de sortir son épée, et le combat serait forcément inégal. Nous prîmes donc la fuite sous le regard éberlué des autres clients de la taverne, dont certains membres de la troupe commençaient à comprendre ce qui venait de se passer et à réagir. L'espace d'un souffle de vent nous fume dehors, et nous scrutions les alentours à la recherche d'un échappatoire. Par chance, 5 chevaux étaient attachés près d'un abreuvoir à peine plus loin. Il ne nous fallut pas longtemps pour en voler 2 et partir à bride abattue en direction de la forêt. Nous entendîmes les cris de nos poursuivants, mais nous ne prîmes pas le risque de nous retourner avant d'être à l'abri des arbres. Notre constat fut terrible. Une troupe entière se lançait à notre poursuite. Nous devions prendre le galop et rejoindre plus vite les nôtres pour espérer survivre. Mon cheval haletait, il soufflait, et j'avais l'impression d'entendre battre son cœur. Mais il n'abandonnait pas, et répondait en accélérant à chacune des sollicitations que je pouvais lui faire. Je gardais la tête basse afin d'éviter les éventuelles branches d'arbres, et je priais pour que le sol ne fût pas trop glissant. À 2 ou 3 encablures devant moi, je voyais Gaynor qui maltraitait sa monture de la même manière que moi. Rapidement, il me parut que les cris de nos poursuivants s'éloignaient, mais cela ne suffisait pas encore à me rassurer. Je me souviens plus exactement combien de temps nous tinrent à cette allure, mais il y eut un moment où nos chevaux refusèrent de continuer et nous forcèrent à une pause. Thomas revint alors à ma hauteur, et d'un regard inquiet, il scruta les alentours. « On dirait que nous les avons semés, » lui fis-je remarquer à voix basse.
« C'est l'impression que j'ai, effectivement. »
me répondit-il sur le même ton. Nous restâmes toutefois un moment silencieux à traquer le moindre indice d'une présence indésirable. Mais hormis le vent, rien ne vint siffler à nos oreilles. Nous reprîmes donc notre chemin à une allure plus raisonnable. Nous rejoignîmes les nôtres alors que la journée touchait à sa fin. Par prudence, nous avions décidé de faire plusieurs détours avant de rentrer. Dès qu'ils nous virent, les hommes vinrent à notre rencontre et Claudius nous submergea de questions.
Calme-toi, mon ami,
répondit Gaynor en lui mettant une main amicale sur l'épaule.
Il y a effectivement des soldats dans ce village, mais ils ne sont pas assez nombreux pour attaquer Alas.
Oui, confirmai-je. Il est probable qu'ils attendent des renforts, ce qui nous laisse encore un peu de temps pour nous préparer. Mais nous... Je n'ai pas l'opportunité de terminer ma phrase. Le son d'une corne sortit de la forêt alentour, et juste après, ce fut des cris de rage. Je compris immédiatement ce qui se passait. Nos poursuivants nous avaient retrouvés. Mais Enor pensa la même chose que moi et cria à nos compagnons.
Aux armes ! Nous sommes attaqués !
Pour nous rendre au village et être plus discrets, nous avions laissé nos épées au camp. Le temps que nous les récupérions, la bataille s'était engagée, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne tournait pas en notre faveur. Nos ennemis n'étaient pas bien plus nombreux que nous, mais l'effet de surprise de leur attaque avait joué à plat. Tandis que je croisais le fer avec un grand gaillard borgne, je vis plusieurs de mes camarades tomber sous les assauts des royaux. Pour ma part, je parvins à me débarrasser de mon adversaire en lui plantant mon épée au niveau du cou. J'en cherchais un autre, et j'entendis la voix de Gaynor appeler à battre la retraite. À ma grande honte, et dans la plus parfaite confusion, nous prîmes la fuite. Les soldats du roi n'entendaient pas nous laisser nous enterrer à si bon compte, et ils nous poursuivirent. C'est à ce moment-là que le diable décida de nous aider. Il se mit à neiger, une neige épaisse, accompagnée d'un vent glacial. Très rapidement, on n'y vit plus à 10 pieds. Ce fut tout à la fois un inconvénient et un avantage. Un inconvénient car nous peinions à nous suivre, un avantage car nos ennemis nous perdirent totalement. Je me trouvai bientôt seul au milieu de nulle part, cerné de troncs d'arbres obscurs et couvert de flocons blancs. L'obscurité était totale et j'essayais de me préparer mentalement à passer une nuit complète au froid et sous la menace d'animaux sauvages. Mais le diable, toujours bon camarade, me fit un second présent. Je perçus bientôt des bribes de voix et en les suivant, je retrouvai mes compagnons, ou du moins ce qu'il en restait, une vingtaine d'hommes parmi lesquels, Dieu merci, se trouvaient Gaynor, Claudius et Harold. La situation n'était pas glorieuse pour autant. On ne savait pas si nous étions toujours poursuivis. Nous avions perdu une grande partie des nôtres et comptions parmi les rescapés 3 blessés. Enfin, comble du désespoir, nous étions perdus, complètement perdus en pleine forêt, sous une tempête qui ne semblait pas décidée à nous guider. Ne pensez pas qu'un tel lot de problèmes fût de nature à démotiver de vieux combattants comme nous. Très rapidement, nous prîmes les choses en main.
Ne devons surtout pas nous arrêter pour le moment,
affirma Gaynor.
Et continuez à nous éloigner le plus possible.
Tu as raison,
répondit Harold.
Mais nos blessés ont du mal à suivre.
Que les plus forts d'entre nous les prennent en charge sur leur dos. Dès que nous le pourrons, nous confectionnerons des civières de fortune.
Elle n'était pas fière, la troupe qui reprit la route, en espérant y trouver son salut. À l'aurore, enfin, la neige cessa de tomber. Cependant, l'atmosphère demeura opaque et la visibilité réduite. Depuis un moment déjà, plus rien ne laissait supposer que nos adversaires persistaient à nous poursuivre, et il nous sembla que le moment était venu de faire le point sur la situation. Ce fut vite fait. Nous étions perdus. Totalement perdu. La forêt qui nous entourait était dense et ne laissait aucun indice sur le chemin à suivre. Au vu de l'épaisseur de la neige, chacun de nos pas était pesant et épuisant.
Je ne dirais pas que la situation est critique,
affirma Gaynor.
Mais nous devons admettre que nous avons connu mieux.
Harold crut bon d'affirmer son courage en précisant que ce n'était pas la neige qui allait effrayer ceux qui avaient combattu et vaincu l'armée du roi. Claudius, qui ne releva même pas les propos hors sujet de l'Irlandais, essaya pour sa part de se montrer plus constructif.
En voyant des éclaireurs dans plusieurs directions, cela nous évitera de nous déplacer avec les blessés et ils pourront couvrir plus de terrain et plus rapidement.
Encore faut-il qu'il y ait quelque chose à découvrir dans le coin,
dit Gaynor songeur. Je sentis à ce moment chez notre chef une petite pointe de défaitisme que je ne lui connaissais pas jusque-là. Je décidai donc d'abonder dans le sens de Claudius et le Gallois se rangea à nos arguments. Après avoir laissé tout le monde se reposer quelque temps, nous sélectionnâmes les 4 hommes et les 4 chevaux les plus en forme, et chacun prit une direction différente à la recherche d'une trace quelconque de civilisation. La journée fut-elle longue ? Oui. Froide et enneigée de plus, quand, loin de nous oublier, le ciel laissa bientôt s'échapper de ses nuages noirs une nouvelle tempête de flocons. Il nous était impossible en pareille situation d'espérer construire le moindre abri, et il n'était pas davantage envisageable de faire un feu, et ce, pour deux raisons. La première, c'est qu'il aurait permis à nos poursuivants, si jamais ils n'avaient pas abandonné, de nous repérer facilement. La seconde, c'était l'impossibilité de trouver autour de nous le moindre bois un tant soit peu sec. Aussi, nous trouvâmes refuge sous de vieilles couvertures et le plus près possible de nos chevaux pour profiter de leur chaleur. À certains moments, je somnolais, à d'autres j'essayais de bouger un peu pour éviter un engourdissement trop dangereux. Au fil du temps, je sentais bien que l'appréhension montait chez les hommes. J'en voulais pour preuve le visage fermé et les conversations quasi absentes. Parfois même le silence était pesant. Le retour du premier éclaireur suscita un espoir, mais il fut vite déçu. Il n'avait rencontré que la forêt et avait dû faire demi-tour à l'approche d'un précipice infranchissable. Le second arriva un peu plus tard avec la même histoire, si ce n'est que pour sa part, c'était une rivière déchaînée qui l'avait bloquée. Lorsque les deux derniers revinrent, nous apprîmes qu'une falaise abrupte et impossible à escalader fermait le chemin vers le nord et qu'un marais profond empêchait le passage à l'est. Ces descriptions m'interpellèrent et Gaynor remarqua ma préoccupation. Aussi m'interrogea-t-il sur le sujet. « C'est que, lui dis-je, quelque chose ne va pas. »«
De quoi ?»
Je lui fis signe de patienter et je cherchais un bâton avec lequel je dessinais dans la neige devant lui la carte des lieux. « Nous sommes là. » Je faisais une croix dans la neige. « Ici, un précipice. Là, un marais. De ce côté, une falaise. Et ici, une rivière. » Je contemplais mon chef-d'œuvre qui aurait sans aucun doute été incompréhensible sans les explications. Puis je poursuivais. Je ne connais pas bien la région, il est vrai, mais j'ai beau réfléchir, je ne vois pas du tout à quoi tout cela correspond.
C'est vrai,
convenu Gaynor.
On dirait que nous sommes en terre inconnue.
Ce constat nous laissa un instant sans voix. Puis c'est notre instinct de survie qui a repris le dessus. Nous devions prévoir la nuit qui allait bientôt arriver. L'un des éclaireurs nous avait indiqué une petite clairière toute proche. Nous décidâmes de nous y rendre en espérant pouvoir y installer un camp. Mais si notre objectif était proche, il fut difficile de l'atteindre tant la couche de neige était épaisse. Je fus le premier à sortir de la forêt et aussitôt je m'immobilisai et faisais signe à mes camarades d'en faire autant. Il y avait au milieu de la clairière un feu qui illuminait la nuit naissante. Gaynor vint à ma hauteur.
Tu vois combien ils sont ?
Me demanda-t-il. Je fronçai les yeux pour tenter de distinguer les ombres qui se trouvaient autour du feu, mais cela était très difficile à évaluer. Non, non, pas vraiment.
Je vais approcher alors.
Non, laisse, j'y vais. Sans lui laisser le temps de réagir, j'avançai vers le centre de la clairière. Au préalable, j'avais pris soin de sortir mon épée. La prudence ne coûtait rien. De la musique vint caresser mes oreilles. Bien que je ne fus pas porté sur les arts, je reconnus le son mélodieux d'une mandoline qu'accompagnait un chant suave bien que grave. Ma curiosité était encore plus aiguisée, et je vis bientôt que, près du feu, ne se tenait qu'un seul homme occupé à chanter. Lorsqu'il me vit à son tour, il ne parut pas le moins du monde apeuré. Il posa l'instrument à côté de lui et se leva.
« Bonjour, mon ami. Que fais-tu avec cette arme à la main ? Range-la et approche. Viens te réchauffer. »
J'hésitais. Je craignais un piège et instinctivement je fouillais du regard les alentours.
« Je suis seul, si c'est cela qui t'inquiète. Comme toi. »«
Qui t'a dit que j'étais seul ? » lui demandai-je.
« Ben, je ne vois personne. »«
Tu regardes mal. » Je me retournai et lançai un signal convenu. Aussitôt, tous mes camarades sortirent du bois. Le musicien s'amusa de cette méprise.
« Ah, je vois. Tu es un cachotier. »
Je ne pus dissimuler ma surprise. Il était perdu dans une forêt, loin de tout, seul, en pleine nuit, ou presque, et voyait débarquer devant lui une bande d'une vingtaine d'hommes à l'allure peu engageante. Et cela l'amusait. « Tu n'as pas peur ?» lui demandai-je.
« Peur de quoi ?»
De te faire dépouiller, par exemple.
Vu ce que je possède, tu ne pourrais prendre que ma vie.
C'est déjà beaucoup. Il eut une petite moue négligente.
J'en aurais d'autres.
Gaynor, Claudius et Harold m'avaient rejoint. Nos hommes encerclaient désormais le feu. Le musicien dévisagea rapidement chacun d'eux, puis se tourna vers nous.
Je suppose que c'est vous, les chefs.
C'est moi.
Intervint Gaynor, jaloux de ses prérogatives.
Eh bien ?
Poursuivit le musicien.
Je suis navré, mais je n'aurai pas de quoi nourrir toute l'assemblée.
Harold tira un couteau de sa manche et le mit sous le cou de notre interlocuteur.
On va tout prendre quand même si tu n'y vois pas d'inconvénient.
Je vois,
répondit le musicien.
Il est vrai qu'à 20 contre 1, vous avez tous les arguments en main.
Gaynor fit signe à deux de nos hommes qui s'approchèrent pour fouiller les affaires de notre proie. Ils n'en sortirent qu'un morceau de pain plus dur que de la pierre.
Je vous l'avais dit, vous ne pourrez me prendre que la vie.
Gaynor s'approcha à son tour du musicien et lui demanda.
« Et que pourrais-tu nous donner pour que nous te laissions la vie ?»
Le musicien prit un instant pour réfléchir.
« Pas très loin d'ici, il y a un village, un joli petit bourg qui a su se préparer pour l'hiver. Ils ont de la nourriture. »
« Et ils sont nombreux ?»«
Moins d'une centaine, mais que des paysans et leurs familles. Aucun n'est aguerri aux arts de la guerre. »
Il prit un ton de confidence.
« Une troupe comme la vôtre en viendra facilement à bout. »
Le gallois nous regarda comme s'il lisait dans nos pensées.
« Indique-nous le chemin et nous te laisserons la vie sauve. »
Mais ce village n'était pas un village ordinaire. Et son secret va nous mener en enfer. Cernunnos, la naissance du diable.
À suivre.